University, un programme qui donne la parole aux jeunes universitaires congolais. University se veut être un espace qui soutient les étudiants dans la transition vers le monde professionnel en leur fournissant des conseils pratiques et ressources utiles. Pour des discussions enrichissantes et des idées inspirantes, suivez University chaque jeudi à 18h sur la 94.7.
Soyez les bienvenus à notre deuxième numéro du talk show des étudiants congolais pour ces mois d'août. Des étudiants en médecine sont à l'honneur pour ces mois. Nous recevons ce soir Cynthia Marie-Louise Moutoukier, étudiante en Master 1 à l'UCC. Marie-Louise, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Claude Stéphie.
Ah non, très loin, Cynthia. Et puis, ce n'est pas Cynthia, mais Cynthia
Exactement.
Marie-Louise Moutoukier. Comment ça se passe à l'UCC, ça va?
Oui, ça va. On charbonne, on se donne, on travaille, ça va.
Ça, c'est bien. L'Université catholique au Congo.
Du Congo.
Du Congo.
Ouais.
Ah, ce n'est pas comme l'Université protestante au Congo.
Ouais.
Voilà. Et Glody Kouilou, elle est aussi en Master 1. Et elle, c'est à l'UNIKIN, hein, à la plus ancienne université du pays, l'ancienne Lovanium. Glody, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Elle est calme, Glody. Elle est ponctuelle. Elle est
très ponctuelle.
Elle nous donne vraiment cet air de médecin. Mm-hmm. Alors, ça va à l'UIKIN. On appelle comment encore la colline?
La colline inspirée.
Ah, je savais, hein, mais je l'ai laissé dire parce que lorsque tu demandes ça à l'étudiant de l'UIKIN, en tout cas, c'est comme si tu lui disais de te réciter un verset de la Bible. Et Adassa Lungeni, elle est en B3 médecine.
Bonsoir.
Bonsoir, Adassa. B3, ça veut dire quoi?
Bachelor 3.
Bachelor 3. Oui. Système LMD.
Voilà.
C'est vous, l'île vitesse.
Oui, l'île vitesse.
Alors, toi, tu es à Révérend Kim.
Oui.
Ça se passe bien, là aussi?
Oui, ça se passe plutôt bien.
Plutôt bien. Et comment tu entends commencer cette discussion ce soir en face des deux autres étudiants en médecine aussi, qui ont quand même un peu plus d'expérience à l'université que toi et qui sont de deux autres prestigieuses universités qui offrent également la faculté de médecine.
Je suis stressée.
Stressée?
Oui.
C'est vrai ça. On m'a dit que les médecins ne sont jamais stressés, c'est au contraire eux qui stressent.
Bon, c'est ça que les gens croient, mais c'est pas vrai.
C'est
on
pas
stresse
vrai.
Aussi.
Oui, mais je t'ai conseillé de garder contact avec le micro. Comme okay. ça, on aura une meilleure qualité de son Adassa Lungeni. Et vous savez ce que je vais vous demander? Notre tradition est de commencer avec le choix d'un papier. Il y en a quatre.
Mm-hmm.
Alors, vous allez en choisir trois et vous allez laisser un papier respirer. Qui choisit en premier? Celle qui est ponctuelle. Alors, Glody.
Okay. Ouais. Choisis un.
Voilà. Qui choisit?
Mais je me lance.
Droit d'aînesse, hein? Et on va terminer avec Adassa. Okay. Mais Adassa, comme c'est toi qui choisis en dernier, tu vas déjà nous dire qu'est-ce qu'il y a sur ta feuille, sur ton papier. Tu nous dis les chiffres et ce qu'il y a sur ton papier.
Les chiffres?
Mmh.
Quatre.
Quatre. Qu'est-ce qu'il y a sur le papier comme rubrique?
Énigme.
Énigme. Tu aimes les énigmes?
Oui.
Tu aimes, hein?
Oui.
Ah, ça c'est bien. Donc ça tombe bien. Et Glody, qu'est-ce qu'il y a?
Le chiffre 1, et c'est écrit vrai ou faux.
Vrai ou faux. Tu aimes être vrai ou faux?
Vrai.
Vrai. Mm-hmm. Ça, c'est bien. On va aussi écouter ce qu'il y a chez Cynthia.
Alors, le chiffre 2, c'est écrit challenge.
Challenge.
Ouais.
2. Mais Glody, on commence avec toi. La okay. conséquence de choisir en premier.
J'assume.
Alors, qu'est-ce qu'il y a vrai ou faux, hein? Vrai ou faux, Glody? Glody, c'est un prénom à la fois pour les hommes, pour les femmes aussi.
Vrai.
Alors, ce n'était pas la question. La question est la suivante. Les serments d'Hippocrate prêtés par les médecins mm-hmm. que tu es en phase de devenir mm-hmm. datent du XVIIe siècle. Vrai ou faux? Vous mm-hmm. connaissez tous les serments d'Hippocrate?
Oui. Mmh.
Toutes, vous les prêtez?
Oui.
Okay.
Bientôt, oui.
Bientôt.
Je dirais vrai.
Faux.
Oui.
Alors, ces serments datent de l'Antiquité grecque.
Oui. Ah ouais.
D'ailleurs, attribué à Hippocrate lui-même, qui était grec à l'époque, donc c'est l'Antiquité. Alors, c'est vrai que c'est un peu piège, hein, mes questions, je te comprends. Ouais. J'espère que tu vas te rattraper.
Okay.
Alors, Cynthia, à ton tour, okay. Tu vas nous rappeler, c'était encore quoi ?
Challenge.
Ok. Tu veux me faire face au challenge ?
Oui.
Bon, c'est Balando.
Yes.
Tu es la représentante des étudiants de l'Université catholique du Congo. Alors, est-ce que tu peux nous citer le nom de trois pathologies qui sont particulièrement répandues en RDC et qui représentent un enjeu de santé publique majeur?
Ok. Il y a la malaria, il y a le cancer. Je pourrais rajouter aussi...
Avec les cancers, ce n'est pas précis. Et...
Le cancer du sein ou du col de l'utérus, c'est très élevé, justement.
Okay.
C'est ce qu'on retrouve souvent. Il y a aussi...
5 secondes.
La maladie des mains sales. Oui.
Ok, la maladie des mains sales. Ah, ses amis qui sont en train de remuer la tête, donc elle les a épatés.
Récemment, on a même parlé de ça, donc... C'est revenu, ça a encore fait surface. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu de santé publique.
Vraiment. Et cette question, c'est une manière de sensibiliser aussi les auditeurs à se prévenir hein, de toutes ces maladies. Mmh. Et c'était aussi une question facile, non?
Oui, c'est facile.
Alors, Adassa, tu nous rappelles, c'était l'énigme.
Oui, l'énigme.
Alors, je suis en code, un secret sur quelque... Je suis un code, un secret, sur seul quelques-uns peuvent déchiffrer. Je suis à la fois un remède et un poison, et sans moi, les hôpitaux seraient désorganisés. Et qu'est-ce que je suis ?
Waouh !
Waouh ! Je suis un code, mm-hmm. Je suis un code, un secret, sur seul et quelques-uns peuvent déchiffrer. Je suis à la fois un remède et un poison, et sans moi, les hôpitaux seraient désorganisés. Qu'est-ce que je suis ? Adassa Zoloba. Ah, bon, bah, j'ai eu la question bien grave. mais indice, je vais donner l'indice.
Oui.
Indice, c'est une question facile.
Ok, c'est une question
facile.
C'est
ça facile. L'indice.
D'accord.
C'est vraiment facile.
Mais ça n'a pas l'air.
Ça n'a pas l'air. C'est pour ça que j'ai dit que l'indice, c'est une question facile.
Ok.
Ça, peut, ça va te servir à trouver facilement la réponse. Donc, ne va pas très loin. Il te reste 5 secondes. C'est une question facile.
Covid-19.
Non, tu es allé très loin. Toi, tu as Covid-19 depuis 2021. On est en 2025. Les ordonnances médicales, on les a toujours.
Ouais.
Alors, comme je le disais, donc, je suis un code, un secret sur seul quelques-uns peuvent déchiffrer. Il faut être un corps médical, généralement, ou un pharmacien. Ouais. Et je suis à la fois un remède et un poison. Attention, lorsque tu t'en sers mal, c'est compliqué. Hein? Dose, surdosage. Et sans moi, les hôpitaux seraient désorganisés.
Ah oui.
Ordonnance médicale. Alors, c'est parti sur 1-0-0 avec Cynthia qui frappe fort. Alors, on va prendre une petite pause publicitaire et on revient dans 30 secondes, c'est ça, pour continuer et commencer notre discussion du jour sur le sujet l'éthique et le choix difficile du médecin en RDC.
Chez nous, toutes les occasions sont bonnes pour gagner. Et oui, on gagne même à recevoir de l'argent. Avec la promo Mikili, recevez vos transferts internationaux dans votre compte Orange Money et gagnez jusqu'à 260 000 francs congolais par tirage au sort.
Ah oui ?
Et oui, recevez vos transferts internationaux Western Union, MoneyGram, TapTapSend, HelloPaysa, OnAfrique et tant d'autres directement et instantanément dans votre compte Orange Money et participez à un tirage au sort pour gagner l'un des nombreux lots de chaque semaine. Orange.
L'éthique, le choix difficile du médecin en RDC, c'est notre sujet. Ce soir, avec Adassa, étudiante à Révérend Kim, étudiante en médecine, Glody, étudiante à l'UNITIN en médecine, et Cynthia, Marie-Louise, étudiante également en médecine, mais à l'UCC. Alors, Cynthia, est-ce que tu es consciente quand même de certains choix difficiles auxquels tu devrais faire face en tant que médecin?
Oui, oui.
C'est dans combien d'années quand même tu vas prêter ton serment?
Il me reste 3 ans.
3 ans. Ouais. Alors, es-tu consciente quand même de ces chemins que tu vas bientôt emprunter?
Oui, oui. Je suis vraiment consciente de cela. La vie de médecin, ce n'est pas seulement soigner. Hein. C'est un dilemme entre faire souvent de mauvais choix ou de bonnes décisions. Alors, c'est souvent compliqué de trancher. Je suis consciente que ce sera mon quotidien de tous les jours. Et voilà.
Glody,
j'essaye d'en apprendre plus pour bien prendre ses décisions.
Glody, tu penses que ces métiers que tu as toujours rêvé faire, parce qu'on se donne des objectifs quand on arrive à l'université, face à la réalité, parfois on se fatigue, je rêvais de ça, mais ce que je vis, ce n'est pas trop ça. Est-ce que tu penses que tu fais réellement ce que tu dois emprunter comme carrière?
Oui, parce que si ce n'était pas ce qui m'était destiné, j'aurais abandonné depuis longtemps. J'aurais vraiment abandonné depuis longtemps, mais plus j'évolue, plus je me rends compte que c'est vraiment l'endroit où je suis censée être. Mmh. Et je sens que tout de moi veut aller, même si tout est difficile. Oh. En tout cas, si cela n'était pas destiné, j'aurais abandonné depuis, je pense, 3 mois déjà.
Non, mais en tout cas, je ne vais pas dire les contraires, parce qu'en te voyant, j'ai l'image d'un médecin. Est-ce que j'ai mort ici?
Non.
Ouais, je vois vraiment. Soit tu t'es habillé comme ça parce que tu savais que tu devais venir parler.
Un peu quand même, les apparences sont très
importantes. Ok. Et Adessa, tu es à ta 40e année à l'université?
3e année.
À ta 3e année. Oui. Et avec vos années, avec votre cursus universitaire qui est très long, tu ne t'es pas déjà fatiguée?
Non. Bon, je m'étais fatiguée, mais c'était l'année passée. Bien. Je voulais abandonner.
Oh, deux ans, ils ont déjà boué. Mais un an, et l'ingézo n'y sous.
Oui, je me sens maintenant motivée. Plus j'avance et je regarde derrière les années déjà que j'ai gaspillées, je me dis, je ne peux pas faire marche arrière comme ça.
Okay.
Et du coup, je continue et ça se passe bien.
Mais comment c'est, on va dire, ce désir, cette passion est née, hein, cette décision même d'aller faire la médecine à l'université?
Bon, c'est déjà que depuis que j'étais petite, je me disais ça parce que j'aime bien, comment dire, inspirer la confiance. Et je trouve déjà que le médecin, ils ont, comment je peux dire, cette facilité-là. Cette facilité d'être respecté, parce que j'aime inspirer au moins le respect.
Okay.
Cette facilité d'être respecté. Mmh. Et déjà, dans notre société, les femmes ne sont pas tellement valorisées. Mais quand ce sont des médecins, on est là, on a mon ganga, mais vous n'êtes pas joué avec elle, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, c'est ce que je ferai la médecine. Et comme ça aussi, ça m'aidera à sauver des vies, parce que j'aime bien faire ça.
Quelque part, ça te motive aussi de continuer tes études en médecine, parce que les gens dans les quartiers, à l'église, t'appellent docteur.
Oui, déjà, c'est ça. C'est ça.
Okay.
T'as envie d'abandonner, mais on t'appelle déjà docteur au quartier.
Hey, ça, c'est bien. Et ça t'est déjà arrivé d'aller en stage depuis que tu as commencé tes études universitaires?
Oui.
Tu as rencontré des choses, des décisions parfois difficiles que les médecins prennent.
Oui.
Ça t'étonne toujours?
Bon, souvent ça m'énerve.
Ok.
Souvent ça m'énerve, mais bon, on est déjà là et on fait avec.
Glody Kouilou, les noms de Kouilou qui me rappellent non seulement une province dans ces pays, aussi une rivière, un peu beaucoup de choses. Mais s'il faut que je me concentre sur ce que tu vas faire à l'université, est-ce que tu vois dans les prochaines années, ce que tu te vois dans les prochaines années devenir? Et quelle est cette décision difficile que tu n'imagines jamais prendre au cours de ta carrière de médecin?
Je pense que la décision la plus difficile serait de choisir entre la vie de mon patient et sa situation financière.
Ok, c'est-à-dire il vient, il se présente, il n'a pas d'argent.
Oui. Et c'est souvent ce qui se passe dans nos hôpitaux ici. Tu peux venir, la personne est vraiment en danger ou bien dans une situation d'urgence, mais parce qu'il n'a pas les moyens suffisants, on ne peut même pas le recevoir aux soins intensifs. Mmh. Et j'espère vraiment ne... C'est vrai que je vais quand même me confronter à cette réalité, mais j'espère prendre des décisions justes pour sauver la vie de mon patient. C'est vrai que tous les médecins disent toujours
attends, Glody, là, mais là, tu nous parles comme une candidate à l'élection. Tu nous fais de promesses qu'on n'arrive pas à situer. Quelle est cette décision juste que tu vas prendre? Dis-nous ici.
Non, mais Bon, il faudrait savoir que ça ne dépend pas que du médecin.
Ah, ça dépend aussi par des justificatifs,
de l'hôpital où travaille le médecin. Parce qu'il y a des hôpitaux où l'administration est déjà carrée comme ça. Quand tu viens, tu dois passer par la réception, tu dois payer. Le médecin, il est dans son bureau. Il faut qu'on dise, s'il vous plaît, médecin, il y a un patient qui est là, il est en train d'agoniser, ainsi de suite. Donc, il y a tout ce schéma-là qui doit être respecté. Mais si ça dépendait que de moi, j'ai d'abord l'avis du patient.
Voilà pourquoi tu dois construire des hôpitaux.
Exactement.
Alors, Cynthia, quelle est la décision la plus difficile que tu n'imagines jamais prendre, en tout cas, pendant que tu seras dans le métier?
Alors, pour mon cas, et je pense que c'est vraiment très dur, de devoir choisir entre la vie ou le soin que je dois donner à mon patient par rapport à ses contraintes religieuses, ses croyances. Parce qu'il arrive souvent de faire face au choix de... Il faut aussi tenir compte de l'autonomie du patient. Voilà. C'est-à-dire que je peux donner un traitement à mon patient, mais selon ses croyances, je ne peux pas faire aller de cette manière, pratiquer de cette manière. Alors là, je suis face à vraiment une très grande décision. Je sais que je peux soigner cette personne, je peux l'aider à guérir, à se sentir mieux, à éviter même la mort. Mais il me dit, écoute madame, selon mes croyances, je ne peux pas accepter par exemple d'être transfusée. Il faudrait trouver d'autres solutions. Je pense que ce sera vraiment...
Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis que si je ne le fais pas, tu décèdes?
Je pense que mon arme la plus forte sur ce coup, ce serait vraiment d'expliquer toutes les conséquences, vraiment en long et en large. Écoutez, monsieur, je sais que c'est pas dit chez vous et je respecte totalement ça, mais si je ne fais pas ça, je pourrais pas vous soigner. Et je sais que maintenant, avec la médecine basée sur les preuves, il faudra encore faire des recherches. Il peut y avoir d'autres manières, des manières alternatives, et c'est ce que chercher. Et aussi, je vais plus me concentrer sur un travail pluridisciplinaire, avoir l'avis de d'autres médecins. Comment je peux m'y prendre pour sauver la vie de cette personne sans pour autant détruire aussi son respect? Parce qu'il faudrait bien soigner la personne, mais il faudrait aussi le respecter.
Ça, c'est vrai. Respecter aussi le croyance, hein, les convictions de patient, c'est un véritable dilemme, tout ça. En même temps, c'est pour son bien, mais... Ah, moi, je ne suis pas médecin, heureusement.
C'est trop mal.
Alors, Adassa, toi également, tu t'es fixé quelques décisions difficiles que tu ne pourrais jamais accepter de prendre.
Oui, parce que je vais un peu soutenir Cynthia, parce que je ne vais pas être confrontée à cela, les patients têtus. Comme, par exemple, qui ne veulent pas prendre...
Ah, toi, tu as même trouvé un terme pour les décrire, les patients têtus.
Tu penses qu'ils sont têtus?
Non, il y a ceux qui sont têtus. Par exemple, si je prends l'exemple d'un patient qui est en phase terminale. Et il ne veut pas prendre de soins adaptés pour prolonger sa vie. Et il préfère qu'on arrête là. Il préfère qu'on arrête, qu'on lui donne plus les traitements, qu'il meure. Et alors que l'autonomie nous envoie à respecter le choix du patient.
Ouais.
Mais en même temps, on a aussi... Le principe du bienfaisance qui nous dit de faire ce qui est bien pour les patients. Moi, je vais me dire que j'aimerais bien faire ce qui est bien pour lui, mais lui, il ne veut pas. C'est ça.
Adassa, on sait tous que dans notre pays, l'accès aux soins n'est pas égal. Comment est-ce que ton université, Révérend Kim, t'y prépare en tant que futur médecin, à savoir gérer la question où tu dois soigner un patient, mais qui manque d'argent?
Bon. En soi, je pense que... Bon, voilà pourquoi je vais toujours avoir beaucoup d'argent au futur pour avoir mon propre centre.
Et tu sais comment Dieu fait les choses? Tu auras beaucoup d'argent, je le sens même. Mais avant que tu aies beaucoup d'argent, tu seras confronté à ces genres de cas.
Bah, je vais me plier à la loi.
À la loi, qu'est-ce que dit la loi?
Si, non, à l'hôpital.
Ok, à la politique de l'hôpital.
Voilà, la politique de l'hôpital. Si je ne peux pas soigner un patient qui n'a pas d'argent, je ne le ferai pas. Parce que si je le fais, ça peut aussi me causer du tort. Donc, je préfère
encore...
Ce n'est
pas ton hôpital.
Oui, ce n'est pas mon hôpital. Donc, je préfère encore lui recommander ailleurs. Si je sais que là-bas, on peut lui prendre en charge gratuitement, je recommande les patients ailleurs.
Jolie défense pour toutes, pour tous les médecins. Si tu... Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que l'université, d'ailleurs, t'est dit quand même en face d'une situation? Parce que c'est un sujet que l'université doit aborder, hein, en formant des étudiants en médecine. Qu'est-ce que l'université t'a appris ou t'a apprise quand tu es confronté à un tel cas?
Écoutez, si je peux aider déjà personnellement en tant que médecin sur ce cas-là, je pourrais toujours aider avec mes moyens. Mais si je ne peux pas aider, on peut toujours faire recours aux organisations, aux organismes pour demander un peu d'aide. Et je pense qu'il y a encore, il y a toujours des hôpitaux publics où le coût est un peu bas. Le temps peut-être que la personne trouve un moyen un peu plus élargi pour se soigner. On pourrait commencer par des soins, histoire de le garder en bon état. Et après, essayer de trouver une solution pour son cas.
Ce n'est pas facile, ces métiers de médecin. Il y a les stress, il y a des dilemmes. Et l'un des dilemmes qui peut parfois donner des nerfs, Glody, c'est lorsque tu es en face d'un patient très souffrant, tu les diagnostiques, il te dit « je ne veux pas connaître les résultats. Mm-hmm. En tout cas, je ne vais pas le savoir. » Face à ces situations, comment tu réagis?
Bon, déjà, le problème, c'est que les patients qui ne veulent pas connaître ces résultats entravent même à son traitement. Tu dois savoir que tu souffres de telle pathologie pour que ça avance mieux, pour que ton moral même y soit préparé, pour que ta famille même fasse...
Il te dit, toi, soigne-moi juste, mais je ne veux pas connaître c'est quelle maladie.
Mais comme,
et toi, tu es confronté au devoir de vérité.
Oui, le devoir de vérité et aussi l'autonomie du patient, où l'autonomie doit pouvoir... le patient doit pouvoir donner des décisions par rapport au traitement. Alors, un patient qui vient me dire « Docteur, j'ai pas envie de connaître mes résultats », je vais d'abord lui faire comprendre qu'il est important de connaître ses résultats. Parce que je ne peux pas être le Dieu qui prend toutes les décisions. Tu dois pouvoir avoir ton mot à dire. Alors, je lui fais comprendre que non, chère maman, cher papa, tu dois être au courant de tout ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose qui vire mal, tu diras « Non, c'est le médecin qui prenait des décisions ». Alors, je lui fais comprendre toutes ces choses. Et s'il ne veut pas, j'en parle à mes collègues médecins et on va voir comment trouver une solution. Mais c'est d'abord montrer au patient que la décision qu'il prend peut nuire même à son traitement.
Donc, absolument, tu dois lui dire.
Oui, je lui fais vraiment comprendre la réalité.
Tout le monde est d'accord? Quelqu'un a un avis contraire?
Oui.
Okay.
Si le patient...
En tant que médecin, il faut toujours se plier au devoir de vérité.
Exactement. Oui. Et si le patient est mineur, alors là, je peux en parler à sa famille.
À ses parents.
Exactement. Mais en tout cas, ils doivent savoir.
Mineur sans parents.
Je ne peux pas.
Mineur sans parents.
Mineur sans parents, on prendra la décision nous-mêmes.
Oui. Mm-hmm. Oui, okay. Parce qu'il est mineur et moi, je me dois de sauver la vie. Donc, même légalement, j'ai le droit de prendre la décision.
Mais Cynthia, les médecins congolais font face à des pressions et ça arrive généralement, notamment sur la question de la clause des consciences. Ou comment tu fais? Tu fais la part de choses entre l'engagement professionnel, les croyances personnelles ou religieuses et les attentes de la famille du patient. Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu as parlé du cas où il y en a certains, famille Nabango, église Nabango, perfusion, transfusion, ils ont raté. Non, qui si on te met là, on a moussouni. Il y a des trucs un peu comme ça. Comment quand même tu fais face à des situations comme ça?
Je n'ai pas très bien saisi la question.
Quand tu fais face à des, on va dire, des convictions, on va dire culturelles, religieuses ou même familiales, et que tu y es obligé sur ton chemin à prendre des décisions en réalité qui devraient te servir pour traiter ou soigner, mais tu es confronté à cela, comment tu réagis?
Ouais, comme je pense que ça revient à la première question que j'ai répondue, je vais vraiment essayer d'expliquer à la personne ce que moi, en tant que médecin, scientifiquement, je peux faire. Surtout en martelant que je comprends parfaitement son état, ses valeurs, et je respecte cela. Je pense que tout va aussi de la manière, tout part de la manière à laquelle on parle à cette personne aussi. Alors, je ne veux pas être le dieu de cette personne, pour reprendre les mots de ma collègue ici présente, pour prendre toutes les décisions et me dire « Non, mais cette personne ne comprend pas, je dois absolument sauver ta vie. » Non. L'éthique, c'est aussi la visée du bien, mais en respectant les autres. Ça, c'est vraiment primordial. Alors, je vais essayer de toutes les manières que je pourrai parler à cette personne en long et en large, que, écoutez, madame, jusque-là, il n'y a que ça comme solution, mais après, la décision va revenir à cette personne.
Alors, Adassa, tout à l'heure, je parlais de la province de Kwilu, c'est-à-dire on t'envoie dans la province de Kwilu à Kikwit.
Okay.
Alors, tu vas dans un centre de santé où tu dois traiter des patients et tu as quand même... il arrive que tu es en face de deux patients gravement malades. On est 23 heures. L'un de deux mourra d'être dans une heure. Tu es obligé de ne sauver qu'une seule personne. Tu vois la situation. Mm-hmm. Comment est-ce que l'université t'a préparé à gérer ces genres de situations?
Vous pouvez répéter la question?
Tu es dans un centre de santé où il y a deux malades graves alors, et tu ne peux que sauver une personne, selon tes compétences et selon toutes les ressources qu'il y a en place. Mmh. Il y en a deux.
Ouais.
Soit tu sauves l'un, soit tu sauves l'autre. Mais comment est-ce que l'université t'a préparé à gérer ces genres de situations?
Je pense qu'on va sauver une seule personne. Et vu que déjà, avec ce que vous avez dit, on n'a pas assez de ressources à Kwilu.
C'est un exemple, hein? On a essayé de faire un voyage. Voilà.
À Kwilu, on va essayer au moins de sauver une personne pour ne pas perdre les deux. C'est un peu ça.
Alors, et là, c'est 3 ans à l'université. Par contre, Glody, c'est déjà combien d'années?
4e année.
4e année à l'université. Mmh. Alors, comment l'université t'a préparé à gérer ces genres de situations?
Comme Adès l'a dit, oui. Mieux vaut sauver une personne que perdre les deux personnes. Mais je pense aussi qu'on doit avoir cette capacité en tant que médecin de pouvoir déléguer les choses. Alors, s'il y a quelqu'un qui est près de moi, qui peut m'aider à sauver l'autre pendant que je soigne, là, c'est ça.
Même si ce n'est pas un corps médical, il faut
même
quoi? Il faut
si
le former.
Pas un corps médical, c'est vrai que c'est quand même un risque, mais c'est la vie d'une personne qui est en jeu. Mm-hmm. Alors, pendant que je soigne le cas le plus urgent, je pourrais peut-être déléguer à une autre personne, lui dire par exemple que non, il faudrait donner telle dose ainsi de suite, même si ce n'est pas un corps médical et c'est un risque. Mais je préfère me concentrer sur vraiment le plus urgent et pouvoir déléguer à l'autre.
C'est pour ça que je vous demande toujours de suivre cette émission avec un carnet à côté ou noté. Parce que là, je me dis, il y en a de médecins égoïstes, c'est-à-dire que quand il a un cas, il veut vraiment, c'est pas aussi par égoïsme, mais c'est juste qu'il veut prendre soin de ses malades. Il n'a pas confiance à de personnes, notamment qui ne sont pas de corps médicaux. Mm-hmm. C'est aussi par méfiance et tout cela. Mm-hmm. Mais quelque part, parfois, peut-être les héros peut être une personne qui n'est pas du domaine. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas également dans la fiction, on n'est pas dans les films. c'est ce que je voyais sortir de la bouche de Cynthia.
Ah, exactement. Hein. Exactement. Oui. Hein. Pour répondre à la même question, en fait, les choix du médecin doivent d'abord aussi se baser sur les données médicales, d'accord? C'est quoi l'urgence par rapport aux deux cas? C'est ce qu'on appelle les chances de survie, ok? Parmi les deux cas que j'ai, qui a le plus de chances de survie? Donc, on suppose, je me mets dans la peau de ce médecin où vous dites, je suis par exemple seule, ok, j'ai deux patients, alors évidemment, je suis dans les urgences et une personne doit partir, mais quelles sont les chances de survie de ces deux personnes? Je sais voir que dans ce cas, cette personne, si j'arrive à guérir cette personne va survivre. Je ne vais pas guérir une personne où je sais que, bien que j'ai fait un effort, ok, j'ai levé les urgences, mais dans une heure, cette personne va partir. Ça ne servira à rien. On va plus sauver cette personne, la personne qui a plus de chances de survie. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne aux urgences. Alors, bon, vu qu'on n'est pas dans le goût de docteur, mais si aussi j'ai quelqu'un à côté, vu qu'on est dans un cas où on est dans un ultimatum où, écoutez, on va sauver les gens, je
faut
vais
jouer
quand même...
le coup pour le coup.
Exactement, je vais quand même essayer de montrer à cette personne, écoute, fais ceci, fais cela, pendant que moi, je sauve cette personne qui a plus de chances de survie.
Alors, vous connaissez ce qu'on appelle l'avortement?
Oui.
Vous connaissez, non?
Oui.
Vous connaissez également l'euthanasie?
Oui.
Oui. Oui, c'est des cas, des situations parfois à controverse et des vrais dilemmes. Hein? Comment est-ce que ces questions sensibles sont abordées dans vos universités? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut se plier à la loi, il faut accepter de les faire, par exemple à l'avortement ou l'euthanasie, où un patient vous demande volontairement de mettre fin à sa vie, peut-être parce qu'il souffre trop.
À sa vie ou à la vie du bébé?
Non, à la vie du patient, bien sûr.
Ok.
Je dirais l'euthanasie, je pense que pour plusieurs pays, ça reste illégal. Mmh. L'euthanasie, donc, interrompre la vie d'une personne ou bien arrêter de lui donner des médicaments pour alléger ses souffrances dues à une certaine maladie. Je pense que dans certains pays, ça reste illégal. Mmh. Et en tant que médecin, c'est vraiment un dilemme parce qu'en même temps, tu dois respecter la dignité du patient et en même temps tu es confronté à la loi.
Qu'est-ce que l'université vous dit? Mais après, on a également besoin de vos avis personnels. Qu'est-ce que toi tu en penses quand même, ton positionnement, malgré tout ce que la société et l'université dit?
Personnellement, je pense qu'il faudrait continuer à se battre. Même jusqu'à ce que tu perdes ton souffle, en fait. Je ne peux pas décider de dire stop, j'arrête de donner les médicaments. Si j'arrête, peut-être que dans 30 minutes, ton état peut s'améliorer en prenant des médicaments. Et si moi, je me dis non, on arrête, tu souffres trop. Je ne veux pas avoir cette grande responsabilité de pouvoir décider sur ta vie. Parce que la vie est faite des surprises. Et aussi en santé. C'est pas que c'est toujours les schémas bien prescrits des médecins qui se réalisent. Non, les médecins sont souvent surpris par leur propre traitement, par leurs propres décisions. Alors personnellement, moi, je ne voudrais pas prendre ce risque. Moi, je me bats jusqu'à ce que...
Glody, on t'a pas demandé de tuer quelqu'un.
Hein? Mais quand même.
Non. J'ai vu que là, tu étais déjà en train... C'est comme si elle s'est mise en face de cette situation. Ouais, je l'ai senti, ça venait de ton cœur. On sait que tu es une bonne personne, hein? Mm-hmm. Ne t'inquiète pas. Donc, alors, Cynthia, on prendra également l'avis d'Adassa. Quel est ton positionnement, mais qu'est-ce que l'université t'a dit aussi?
Alors moi, déjà, c'est l'Université catholique du Congo. Moi, je fais la médecine chrétienne. Déjà, je suis là pour sauver la vie. Donc, c'est vraiment ce que l'on nous apprend, ok? On essaie de faire la différence pour vraiment essayer à tout prix de sauver la vie, bien que l'éthique aussi est là et qu'il faut tenir compte de la vie du patient. Ça, c'est ce que l'université me dit. Et ça va aussi également dans le même sens, selon mes convictions personnelles. Moi, je suis vraiment pour la vie. Alors, face à une question d'euthanasie, je pense que je pourrais peut-être essayer de parler à cette personne par rapport à ce que moi je pense de cela et peut-être l'orienter vers une autre personne. Mais moi, je ne pourrais pas prendre cette responsabilité-là ou cette autonomie de me dire « Ok, monsieur, d'accord, je vais arrêter votre vie. » Non, je ne pense pas. Je n'ai pas eu le pouvoir de te donner la vie, alors je ne pense pas être capable d'en arrêter aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, on vous dit, lorsque vous êtes médecin, il faut se plier aussi à la loi, notamment du pays. Pays a ses droits, ses lois. Uh-huh. Mais s'il arrivait qu'on légalisait l'euthanasie, par exemple, à Dassa, qu'est-ce que tu ferais? Tu te plierais à la décision?
Je vais essayer d'en dissuader le patient. Mais s'il ne m'écoute pas, je pourrais carrément l'orienter ailleurs.
Okay.
Pour que je ne l'efface pas.
Elle ne veut pas tomber dans ça. Alors, je reste encore avec toi. Si tu avais le pouvoir de créer une loi éthique pour les médecins dans notre pays, quel serait son principe le plus important pour garantir que le droit de patient soit respecté?
Une loi.
Ouais.
Bon, ce serait d'abord de soigner le patient avant de regarder son portefeuille.
Ok.
Oui, parce que c'est ce qui nous tue beaucoup. Mmh. Ça tue beaucoup de patients qui n'ont pas assez de moyens. Et du coup, si on faisait en sorte d'abord de soigner le patient et voir le paiement après, ça sera vraiment intéressant.
J'ai envie de rebondir sur ça, mais je vais dévoiler une réponse à une question qui sera posée à l'une d'entre vous à la fin. Donc, j'ai mes thés. Glody, quelle serait cette proposition de loi que tu ferais?
C'est que le médecin ne veille pas seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Il y a ces maladies qui pèsent non seulement sur le physique, mais aussi sur la psychologie du malade. Et très souvent, dans nos hôpitaux, ce sont des choses qui ne se font pas. Le malade vient, tu lui expliques sa maladie, et tu fais un petit speech de quelques minutes, non, ça va aller. Mais le traitement psychologique n'y est pas vraiment. Mmh. Si on peut aussi essayer d'intégrer ce domaine dans le traitement physique, ça serait une bonne chose. Donc, veiller non seulement à la santé physique, mais aussi à la santé psychologique du patient et de sa famille.
Très important, accorder, et ça, la responsabilité commence dès l'université, accorder également assez d'importance au cours psychologique, parce que là, c'est une dimension que toutes les universités, malheureusement, n'offrent pas. Cynthia, tu avais quelque chose à rajouter?
Question. Nous, on a eu à avoir un cours de ce genre. Mmh. Alors, on nous a dit qu'on ne le donne pas souvent. On a eu à avoir un cours de ce genre. On parlait de l'éthique et de l'accompagnement du malade. C'est pas encore vraiment
bien mis
donné
en place
dans les cours, mais chez nous, on l'a eu. Je pense en L2, si je me trompe pas.
Mais Cynthia, tu es consciente quand même que, je ne sais pas si tu as vécu il y a 25 ans, mais je pense quand même que tu as vécu il y a 15 ans,
okay.
Et comment la situation était dans les hôpitaux. Moi, lorsque j'allais dans un hôpital, c'est-à-dire, on te reçoit bien, c'est comme si c'était ta mère qui te recevait, ton père. Mais aujourd'hui, l'attitude des médecins, des personnels de santé...
Ce sont des personnes frustrées.
Vraiment changées. On a l'impression qu'ils sont à tout le temps frustrés. Mm-hmm. Vous remarquez, c'est là, et c'est dû à quoi?
Alors moi, je pense que il y a aussi le traitement hein, du personnel. Ça dépend des quelles institutions où tu vas. Généralement, bon, moi j'ai eu à remarquer ici chez nous, par exemple, quand tu vas dans les hôpitaux publics, tu as l'impression que tout le monde est stressé là-bas. Il y a trop de patients et il y a pas peut-être assez de personnel. Déjà, je pense qu'il y a déjà ce traitement-là du personnel. Quand tu es mal déjà dans ta peau, alors tu ne peux pas te donner quelque chose de bien.
Est-ce qu'à l'époque il n'y avait pas aussi assez de patients?
Si, mais peut-être que le coût, comment les payer, comment les traiter était différent. Pourquoi dans certains hôpitaux privés ici aussi, quand tu y vas, tu sens que vraiment le patient est roi, il est bien traité. Eh bien, madame, s'il vous plaît, attendez, etc. Mais quand vous allez ailleurs, je pense que ça commence d'abord par le traitement du personnel, comment ils sont traités à l'intérieur. Et s'il y a peu de personnel dans un service où il y a beaucoup de patients, je pense qu'il faudra aussi gérer ça parce qu'on est au final stressé. On ne sait pas recevoir comme il se doit les patients, on ne sait pas être courtois parce qu'on a beaucoup de patients et on ne sait pas gérer.
Ça, c'est vrai. Et Glody, quel est le plus gros risque que tu as vu un médecin prendre jusqu'ici?
Le grand risque, depuis ma première année, c'est de soigner une femme qui venait d'un milieu assez compliqué. Une femme qui, on te dit, maman, Vanda Awa, elle ne veut pas se mettre. Une femme qui était sur le point d'accoucher, mais qui ne comprenait pas que l'accouchement est aussi un risque, non seulement pour son enfant, mais aussi pour elle, n'en faisait qu'à sa tête. Alors, le médecin a pris le risque de la soigner, peu importe ce qu'elle faisait. Alors, moi, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Cette dame, elle ne l'écoute pas. Mais il a pris le risque de la soigner, même si la dame ne voulait pas l'écouter. Alors, c'est vraiment le plus grand risque, parce que ça entachait même à sa profession. Donc, c'est vraiment le plus grand risque que j'ai vu durant mes années académiques.
Alors moi, le plus grand risque que je vais prendre en ce moment, c'est de terminer ces débats. C'est de mettre fin à cette discussion.
Quelle belle manière de
mettre fin à cette discussion. Et on va passer à la prochaine rubrique University Mood. C'est maintenant.
University Mood, le mood des étudiants.
University Mood avec Adassa, Glody et Cynthia. Donc, je parle de représentantes de Révérend Kim Unikin et UCC des étudiantes en médecine sont là pour parler de choix difficiles hein, que cette profession l'air oblige même. Alors, je commence avec toi, Adassa. Cette fois, on est dans University Mood, le mood des étudiants, l'ambiance, les vibes, on peut même parler du délire. Okay. C'est comme ça que les étudiants parfois utilisent cette expression, bien qu'en réalité en médecine, les délires, c'est un peu des troubles. Hein? Voilà. Alors, quelles sont tes habitudes à Révérend Kim sur le site d'Engili?
Mes habitudes personnelles?
Oui, oui. Déjà, il faut qu'on l'annonce. Hein. On se prépare à vivre un talk show unique sur les sites de Révérend Kim Angeli. On a déjà été à l'Unikin, à l'UCC. Pas encore, parce que vos programmes sont aussi assez compliqués hein, avec votre université.
Ah, oui.
On espère qu'on y sera un jour. Mais on sera cette fois à Révérend Kim, site d'Angeli. En tout cas, j'ai spoil déjà.
Okay.
Oui. Alors, comment ça se passe sur ton site universitaire
À Lingwala.
Oui, à Lingwala. Ah, il y a également médecine à Lingwala.
Oui, mais moi, je suis de Lingwala.
OK. Alors, comment ça se passe?
Ça se passe bien. C'est souvent stressant.
Quelles sont tes habitudes?
Mes habitudes? Quand j'arrive.
Ta routine, oui.
Ma routine. Arriver à la fac, déjà...
Je sais, il y a des émotions, il se passe beaucoup de choses, mais tu peux nous confier. En tout cas, ici, on parle hein, sans embâche, c'est sans problème, on est clean, donc n'aie pas peur de dire comment tu vis tes journées. Tous, nous vivons de journées.
En tout cas, mais ça se passe quand même bien quand j'arrive et que les profs sont déjà là, on assiste au cours.
Ça veut dire que tu arrives généralement en état hein? Oui, vas-y, ça arrive. Tu n'es pas la seule étudiante hein, qui arrive en retard. Vas-y, ouvre-toi en tout cas. Tu es réservée. Hein. Ici, quand on entre dans ces studios, on enlève cette réserve-là, on met un peu à côté.
Quoi?
Et on discute, voilà.
Ok, quand j'arrive déjà, si l'étudiant et le professeur est déjà là, on assiste au cours en attendant la pause. La pause, généralement, c'est à 12h30. Et pendant la pause, nous sommes là en bas, à la cour.
Avec ta base.
Bon, en soi, j'ai pas de base.
Ah, c'est quoi la contre-base alors?
Bon, je suis souvent seule ou soit accompagnée d'une personne parce que j'aime pas marcher seule. Accompagnée d'une personne, une amie et tout. on va à la pause, manger, se détendre pour remonter, pour étudier jusqu'à 17h encore. Parce qu'avec le système MD, on commence de 8h à 17h, on étudie toujours. Mais on a quand même des petites pauses après 4h, souvent.
Claudie, quelles sont tes habitudes à l'université? Qu'est-ce qui te différencie des autres?
Mes habitudes à l'université, c'est que je ne suis plus assez ponctuelle comme avant. Il y a un petit relâchement, bon... Je pense changer en cinquième année. Alors, moi, à la fac, mon mood, c'est vraiment profiter des mes années de la fac. Mmh. Profiter pas seulement sur le plan scientifique, mais vraiment sur le plan social. Mmh. L'université, c'est vraiment un univers où tu te fais pas des connaissances que sur le plan scientifique, mais social aussi. Ouais. Tu rencontres des amis en droit, en polytech. Tu profites vraiment de ta vie parce que moi, personnellement, je suis à la fac du lundi. Presque jusqu'au samedi, je passe peu de temps à la maison. Et toutes mes journées sont pratiquement passées à la fac. C'est vraiment comme ma petite maison, même si elle est dure, que c'est chaud. Mais bon, en bout, c'est vraiment être celle qui donne tout pour ses études. C'est vrai que c'est vraiment pas facile. Les études en médecine demandent beaucoup de persévérance.
Et c'est dans un gros bassin, hein, lui.
Oui, ça demande vraiment d'avoir un cœur tout entier. Parce que quand tu donnes ton cœur à la médecine en demi-mesure, ben, carrément,
ça marche pas.
Oui, ça marche pas. Alors moi, mon mood, c'est vraiment de profiter des mes années de la fac, de profiter de mes professeurs, de profiter de toutes les personnes que je rencontre et d'être le meilleur médecin possible.
Et tu ne manges pas?
Je mange, bon, ça dépend. Maintenant, il n'y a plus d'endroit où manger à l'Unikin, donc c'est compliqué.
Oh. En tout cas, là, je pense qu'on doit ouvrir un agenda oui. Parce que tout étudiant de l'Unikin qui passe ici, on parle. Mm-hmm. On n'a plus de quoi se nourrir à l'Unikin.
On n'a plus d'endroit où manger, malheureusement.
Okay. Alors, on va... Bon. Alors, je vais passer à Cynthia. Qu'est-ce qui te différencie des autres à l'UCC?
Alors, moi, mon mood, c'est vraiment travail et relax.
Okay. Okay.
Donc, c'est vraiment tout ça, l'ensemble de tout ça. Il ne faut pas craquer non plus, il ne faut pas tomber dans le burn-out. C'est matin, j'ai un endroit où je me paye quand même un petit pain, tout ça pour manger, parce que je n'aime pas commencer le cours affamé. Après, c'est la petite pause où j'y vais à la messe. Et après, les après-midi, à la fin des cours, donc vers 16-17 heures, c'est groupe d'études. On va un peu revoir rapidement les cours qu'on aura, etc., étudier un peu. Et puis voilà, c'est une maison.
Qu'est-ce qui caractérise les étudiants d'être en université, selon toi?
On nous reconnaît de partout par notre habillement.
Voilà.
Ils s'habillent comment? Habillement.
Comme des nonnes.
Comme des nonnes.
Oh là donc, là. Je suis habillée comme... Okay.
Non, je n'ai jamais vu une nonne comme ça. Honnêtement.
Okay. Non, moi, je pense que c'est cool, c'est sympa, c'est relax. Tu vois, comme j'ai dit, relax. Hein. Mm-hmm. Tellement, on doit travailler. Mm-hmm. On donne tout. On ne peut pas être avec des vêtements qui serrent. Donc, on
avec
est plus relax. Oui, ça nous permet de respirer, de laisser notre cerveau réfléchir.
Mais après, c'est stylé, oui.
Ah, merci. Hein.
Alors, qu'est-ce qui caractérise les étudiants de l'Unikin?
Le courage.
Le courage.
Oui. Ouais, déjà, c'est pas facile d'étudier à l'Unikin, que ce soit en droit ou en économie. Donc, c'est vraiment le courage qui caractérise les étudiants à l'Université de Kinshasa.
Adessa?
La fierté.
La fierté.
Oui.
Vous êtes tellement fiers.
Oui, les étudiants des révérends comme nous sommes souvent fiers.
Ok, c'est bien. Mais si votre campus de médecine était une partie du corps humain, ce serait quelle partie?
La tête.
La tête, pourquoi?
Bon, parce qu'on prend beaucoup de décisions, on fait beaucoup de choses, et je me dis que la tête, ça réfléchit.
Ok. Claudie?
J'aurais dit la tête, mais particulièrement le cerveau.
Le cerveau.
Oui.
Le cerveau.
Ah,
ok.
Il y a du contrôle C ici. Alors, je suis avec toi, Cynthia. Ouais. Quelle est la compétence non médicale que l'environnement de ton université t'a le plus appris?
La bienfaisance, une compétence non médicale.
Non médicale.
Non médicale. Ok. L'empathie, la courtoisie, hein, je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouve plus vraiment chez certains médecins. Alors, je pense que c'est quelque chose de plus.
Ok. On en avait besoin qu'une, d'ailleurs. Tu nous as cité trois. Et Glody?
Une seule qualité, je dirais l'audace.
L'audace. Toujours oser. Ok. Adessa?
Je dirais aussi l'audace.
L'audace aussi.
Oui.
Alors, Adessa, c'est aussi Esther.
Oui.
Ok. Alors, on va t'appeler désormais Esther.
Ah non, j'aime pas.
Alors, mais alors ça, tu n'as pas finalement l'audace. D'accepter ça.
En soi, j'aime pas.
Ok. Alors, si on t'est donné un budget illimité pour améliorer la vie des étudiants en médecine sur ton campus, quelle serait la toute première chose que tu ferais?
La toute première chose, c'est d'avoir des bibliothèques numériques. Parce que très souvent, ce qu'on rencontre, c'est que dans nos bibliothèques, les étudiants vont seulement lire avec leur syllabus. Parce que les livres ont un peu cette grande image de c'est les livres de tel professeur, ce sont des livres qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Voilà. Alors vraiment, créer cette bibliothèque numérique où l'étudiant se sent à l'aise de pouvoir consulter des livres qui ont plus de 100 pages. Parce que c'est aussi ça le problème. Donc vraiment, avoir accès à une bibliothèque numérique qui permet à tout le monde de pouvoir user de ses connaissances et de pouvoir s'enquérir de plusieurs choses.
Ça, c'est parfait. Adassa, qu'est-ce que tu ferais?
C'est ouvrir l'infirmerie à l'université.
L'infirmerie?
Oui.
OK.
Finir la construction de notre faculté. Parce que la faculté en construction, alors, c'est... je pense que c'est vraiment la chose que je ferais pour qu'on ait enfin notre espace.
Nos invités de ce soir sont très ambitieuses, on aime. Et lorsqu'on cherche la meilleure université de formation en médecine en RDC, Cynthia, tu penses que ton université entre aussi dans la conversation?
Oui.
Glody?
Toujours.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Hein. Oui, je savais déjà que j'aurais des oui. C'était juste une manière pour moi de vous dire qu'on va maintenant passer à la prochaine étape.
OK. D'accord.
Fast and curious. Question rapide et curieuse.
Fast and curious. C'est ici que même quand il fait froid, on commence un peu à transpirer. Disclaimer, ce ne sont que des questions. Hein, ce ne sont que des questions et parfois même des petites questions. Alors, pour ça, on va commencer avec Adassa. Fast and curious, la règle est très simple, il faut juste choisir. Tu préfères A ou B? C'est bon? Mm-hmm. C'est bon, non? Et encore un autre disclaimer, on ne commente pas.
D'accord.
Sa réponse. Il faut juste donner sa réponse et c'est fini.
Ok.
Ouais, il ne faut pas argumenter. Alors, tu préfères qu'un patient demande sur son état de santé ou qu'il refuse catégoriquement d'écouter tes conseils? Tu préfères qu'un malade demande sur son état de santé ou qu'il refuse catégoriquement d'écouter tes conseils?
Qu'il refuse d'écouter catégoriquement mes conseils.
Il le dit?
Qu'il me demande sur son état de santé.
Ok, mais qu'il écoute tes conseils.
Qu'il refuse d'écouter mes conseils.
Ok. Alors, je reste avec toi, Cynthia. Tu préfères sauver la vie d'un criminel reconnu coupable ou celui de ton ex avec qui vous avez très mal rompu?
Donc là, je ne sais même pas commenter, quoi.
Fast and curious. Il faut choisir.
Ah, écoute. J'ai envie de dire les deux. Bon, c'est la vie que je sauve. Hein. Là, je ne regarde personne. Alors, s'il faudrait faire un choix...
C'est fast and curious, pas d'argument, il faut juste choisir.
Ok. Waouh.
Fast and curious, c'est rapide et c'est curieux.
Mm-hmm. Ok. L'aide du criminel.
Alors, fast and curious, tu préfères sauver la vie d'un criminel reconnu coupable ou c'est lui de ton ex avec qui vous avez très mal rompu, Glody?
Mon ex.
Adassa?
Je vais sauver la vie de mon ex.
Je reste avec toi, Adassa. Tu préfères dire la vérité totale à un patient sur une maladie mortelle ou lui donner de l'espoir en cachant une partie de la vérité?
Lui dire la vérité, carrément.
Lui dire la vérité.
Et Glody, tu préfères réussir ta carrière ou trouver un bon mari?
Ah! Le choix est compliqué.
Fast and curious. Trouver un bon mari. Mm-hmm. Carrière, pandi.
Non.
Adassa?
Trouver un bon mari.
Cynthia?
Trouver un bon mari.
Alors, Cynthia, tu préfères être jugée par tes pairs pour un choix éthique difficile ou être jugée par ta propre conscience?
Par ma propre conscience.
Glody?
Par un choix éthique difficile.
Un choix éthique difficile.
Adassa, tu préfères avoir une réputation de médecin exceptionnel mais sans pitié ou être reconnu pour ta grande humanité mais sans être un grand spécialiste? Grande spécialiste.
Sans pitié.
Sans pitié. Glody?
La deuxième question.
Ok, donc être connu pour ta grande humanité mais sans être un grand spécialiste. Cynthia.
Deuxième.
Cynthia, tu préfères que tes études en médecine soient 100% théoriques et faciles ou qu'elles soient difficiles avec beaucoup de pratiques?
Difficile avec beaucoup de pratiques.
Difficile avec beaucoup de pratiques.
Théorique.
Théorique. Alors, on va terminer ici. Tu préfères faire une consultation qui dure 5 minutes ou celle qui dure une heure?
5 minutes.
Une heure.
Une heure.
Une heure. Fast and Curious, c'est terminé. Vous allez reprendre vos papiers. Il y en a certaines qui aiment des consultations qui traînent, d'autres non. Ça, elles ont l'air secret. Et dans Fast and Curious, malheureusement, on ne donne pas des arguments. Alors, c'était qui la dernière personne à tirer, à choisir son papier? C'était Adassa. Oui. C'est toi, on commence avec toi. Tu nous rappelles juste, c'était quel numéro, quel chiffre et quelle rubrique?
Le chiffre 4.
Énigme.
Énigme, oui.
J'ai un corps, mais pas de vie. Je peux avoir des organes, mais je n'ai pas d'âme. On me dissèque pour apprendre, mais je ne ressens rien. Qui suis-je?
Une grenouille.
J'ai compris ton intention, mais ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas seulement avec des grenouilles qu'on fait des expérimentations.
Un cadavre.
Un cadavre.
Ah oui, voilà.
Un cadavre, voilà. Alors, Cynthia.
Oui.
C'était...
Challenge.
Deux. Sans regarder, est-ce que tu peux épeler le mot stéthoscope?
S. T. H. Je peux reprendre?
Ok, oui. Une dernière chance.
Merci. S. T. E accent aigu, T H O S C O P E.
Alors à partir de maintenant, je vais t'appeler Cynthia Marie-Louise Aquila. Moutoké. Alors c'est bien tenté, c'est bien. Stéthoscope, c'est quoi?
C'est un instrument médical qui nous sert à écouter le battement du cœur.
Glody, on termine avec toi.
Ok.
C'était quoi? Quel chiffre?
Vrai ou faux?
Vrai ou faux. Alors, les codes de déontologie médicale en RDC autorisent un médecin à refuser de soigner un patient si celui-ci ne peut pas payer. Vrai ou faux?
La théorie et la pratique, très différentes. Si je dois voir, c'est que j'ai vu en pratique et que je dois voir en théorie. En théorie, je dirais qu'il faut soigner le patient, même s'il n'a pas de moyens. Mais en pratique, c'est le contraire.
Oui. Tu as raison, les codes stipulent que le médecin ne peut refuser de porter assistance à une personne en danger immédiat, et quelle que soit sa situation financière. Donc, il faut en réalité le faire. Mais en pratique, comme tu l'as dit, lorsqu'on va dans nos hôpitaux, ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Et en pratique, nous allons terminer notre discussion de ce soir aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve en fin du mois. Hein, le tout dernier jeudi du mois d'août pour notre talk show final. On se réunira pour prendre les dernières conclusions sur le sujet que nous évoquons ici. Merci à tous nos auditeurs qui ont été avec nous ce soir. On se retrouve à la prochaine. Restez à l'écoute de UFM, le temple de la musique.
Présenté par Claude-Cécile Boitas, le programme University met en lumière des problématiques et des aspects sociaux auxquels les jeunes universitaires congolais se heurtent dans leur cursus universitaire et au-delà. University offre un canal de solutions et propose des pistes pour améliorer leur expérience académique ainsi que la vie d'après-cursus. N'hésitez pas à rester à l'écoute pour des échanges pertinents et des opportunités de collaboration.
94.7, la radio qui donne la parole aux jeunes universitaires congolais. Ce programme vous est offert par Orange.
Chez nous, toutes les occasions sont bonnes pour gagner. Et oui, on gagne même à recevoir de l'argent. Avec la promo Mikili, recevez vos transferts internationaux dans votre compte Orange Money et gagnez jusqu'à 260 000 francs congolais par tirage au sort.
Ah oui?
Et oui, recevez vos transferts internationaux Western Union, MoneyGram, TapTapSend, HelloPaysa, Onafrique et tant d'autres directement et instantanément dans votre compte Orange Money et participez à un tirage au sort pour gagner l'un des nombreux lots de chaque semaine. Orange.